Le débat africain. Alain Foucault.
Au moment où l'Afrique se réjouit du fait que les prévisions apocalyptiques des scientifiques relatifs au Covid-19 ne se soient pas réalisées, du moins pour l'instant, elle doit rapidement faire face à une autre menace au moins aussi importante. Si les morts ne jonchent pas les rues, Dieu merci, alhamdoulilah, les économies ont été particulièrement perturbées avec le confinement, les mesures barrières, les fermetures de nombreux commerces, mais également avec l'effondrement historique du prix du pétrole sur le marché mondial. Encore une fois, les spécialistes et les institutions financières internationales, se basant sur ces éléments, prévoient une autre catastrophe économique, celle-là, avec une forte récession. Le spectre de la famine et du chômage de masse plane cette fois-ci encore. Au moment où dans le reste du monde, l'on s'organise pour un vaste plan de relance, comment l'Afrique se prépare-t-elle face à ce nouveau défi? Comment compte-t-elle remettre son économie sur les rails au moment où la planète entre dans une forte zone de turbulence? Quelles leçons a-t-elle tirées de cette situation inédite et comment se structure-t-elle pour ne pas perdre l'avantage de croissance qu'elle avait depuis quelques années? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche au plan de relance africaine après la tempête du Covid-19 qui depuis plus d'un mois a mis les économies en veille. Plusieurs invités au téléphone dans quelques capitales subsahariennes. D'abord le docteur Cheikh Kanté, le ministre chargé du suivi du plan Sénégal émergent. Il est en direct de Dakar, la capitale sénégalaise. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour, Alain.
Second invité de ce plateau, monsieur José Sélé Yalagueli, le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, ancien cadre directeur des impôts et ancien cadre de la Banque mondiale. Il est en direct de Kinshasa. Bonjour, monsieur le ministre José Sélé Yalagueli.
Bonjour, cher Alain.
Notre troisième invité en direct de Douala, la capitale économique camerounaise, est Célestin Tawamba, le président du JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, l'organisation la plus représentative du secteur privé dans ce pays. Monsieur Célestin Tawamba est également le président en exercice de l'UNIPAS, l'Union des patronats d'Afrique centrale. Il faut préciser que Monsieur Tawamba est d'abord le patron du groupe Cadis Invest, qui est dans les secteurs de l'agroalimentaire, mais également de la pharmacie avec Saint-Pharm, un important laboratoire qui fabrique des médicaments à Douala pour l'Afrique centrale. Bonjour Monsieur Célestin Tawamba.
Bonjour Monsieur Foucault.
Quatrième invité de ce plateau, Paolo Gomez, cofondateur de New African Partners, une plateforme d'investissement. Cet ancien directeur exécutif de la Banque mondiale pour l'Afrique subsaharienne est également le coprésident de Afro Champions, un ensemble de partenariats publics-privés innovants et de programmes conçus pour galvaniser les ressources et les institutions africaines pour soutenir l'émergence des champions multinationaux. Et pour être complet et actuel, Paolo Gomez, le multitâche, est le président du Fonds de l'Union africaine et CDC de réponse au Covid-19. Bonjour Monsieur Paolo Gomez.
Bonjour Alain.
Alors, des industries, des fabriques, des banques, des salles de marché, des écoles, des magasins, des centres commerciaux, des restaurants, des salons de coiffure, tous fermés pendant près de 2 mois maintenant. Des avions cloués au sol, des trains parqués. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais encore on n'avait vu l'économie du monde ainsi à l'arrêt. Près de 3 milliards de personnes confinées chez eux pendant 2 mois. Au moment où la pandémie semble très lentement reculer, la planète sort de sa torpeur avec la gueule de bois. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet sur la relance économique, quelles leçons tirées de cette situation inédite, docteur Cheikh Kanté?
Moi, je préfère d'abord faire un bilan d'étape, Alain, parce que nous sommes passés, comme vous le savez, de l'afro-pessimisme à l'afro-optimisme, et je dirais même à l'afro-réalisme. Et l'Afrique est dans un processus, jusqu'à présent, et malgré la crise, dans un processus de décollage vers l'émergence. Elle n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. C'est pourquoi l'Afrique est considérée comme un épicentre des enjeux géopolitiques, géostratégiques, géoéconomiques, et considérée comme un pari sur l'avenir, un arbitrage sur le futur en tant que nouvelle frontière du XXIe siècle. Il y a un tableau reluisant déjà qui a été réalisé par l'Institut McKinsey, analyse basée sur 3 variables. Variable richesse, c'est-à-dire PIB, variable démographique, enfin, variable potentiel agricole.
Je ne veux pas vous interrompre, docteur Cheikh Kanté, mais moi j'ai envie qu'on parte dans l'ordre en disant que peut-on retenir de ce qui vient de se passer?
Parce que déjà, je peux dire que l'Afrique était un peu préparée à ça depuis le consensus de Dakar. Vous étiez là. Il y a une non-mortalité africaine qui s'était déjà tirée, qui s'était déjà dégagée pour prendre ses responsabilités et œuvrer pour son propre développement en se basant sur les potentiels de l'Afrique elle-même.
Ça, c'est l'idéal, c'est ce qu'on envisageait. Mais pour l'instant, Quel est l'impact immédiat sur les économies africaines, monsieur le ministre Séléï Alagouli? Vous qui êtes aux affaires aujourd'hui, quel impact ce Covid-19 a-t-il eu sur les économies?
Alors, il faut d'abord dire que, contrairement à la crise de subprime des années 2007 et de la crise financière de 2008 qui ont laissé l'Afrique à l'abri de ces crises du simple fait de son faible niveau d'intégration financière, la crise économique issue du Covid 2019 n'est pas épargnée l'Afrique. Mais là n'est pas le problème, parce que nous tous, nous savons que à chaque crise, qu'elle soit humanitaire, qu'elle soit économique, qu'elle soit sanitaire, correspond des nouvelles opportunités qu'il faut saisir. Et à mon avis, je pense que c'est le moment pour les pays africains, dans leur ensemble, de vouloir, de pouvoir justement aller vers un nouveau paradigme de développement pour savoir comment se délester de la dépendance extrême à l'économie internationale pour s'ériger en des économies autonomes intraverties au niveau des économies africaines. Mmh. Et donc, à mon avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer la résilience des économies africaines dans ce contexte-là? Les recettes sont connues, elles ont toujours été répétées, mais il faut encore les dire. Il s'agit notamment de la diversification des activités économiques, il s'agit de l'industrialisation des pays africains, il s'agit de la désaccoutumance aux matières premières, de la mobilisation efficiente des ressources financières pour affecter aux investissements utiles justement à rendre attractives les économies africaines.
J'ai envie de dire, monsieur le ministre, ce que vous dites, on le savait déjà, qu'il faut diversifier les économies africaines, qu'il faut produire localement, qu'il faut, on va dire, encourager la naissance des champions, mais jusqu'à maintenant, on ne l'a pas fait. Alors, avec cette crise, qu'est-ce qui fait que cela soit, qu'on puisse vous croire aujourd'hui que vous allez le faire, parce qu'on a pris quand même du retard là-dessus?
Non, je peux dire que oui, l'Afrique a pris du retard, certes, mais le problème, c'est au niveau de la volonté politique qui est affichée aujourd'hui par les responsables, disons le chef d'État le plus élevé. Je ne veux pas m'interdire de dire que sous l'impulsion du président de la République démocratique du Congo, je voulais dire donc le président Félix Tshisekedi, l'Union africaine a tenu un ensemble de réunions, donc il y a 2 semaines, par vidéoconférence, pour aborder les questions économiques, les questions des recherches, les questions politiques liées au Covid pour pouvoir permettre à l'Afrique de faire face à une certaine résilience. Mmh. Et la dernière de cette série de réunions a eu lieu le mercredi passé, donc je crois le 28 avril. On prit part à ces réunions donc le président des regroupements régionaux. Donc il s'agissait d'abord du président sud-africain lui-même, qui est le président de l'Union africaine. Le premier.
Et ils ont parlé d'un plan global alors, c'est-à-dire que l'idée n'était pas seulement celle de la RDC, c'est bien ça?
Il y a eu des présidents de regroupements régionaux. Mm-hmm. L'Afrique de l'Ouest était représentée par le président Issoufou, l'Afrique donc le commissaire par le président Rajoelina, le président Bongo avait représenté la CAC, mais on avait également eu la présence du premier ministre tanzanien, du président Paul Kagame, qui ont abordé un certain nombre de questions, justement pour permettre à l'Afrique de passer de la parole et des discours à l'acte.
Ce serait déjà d'une très bonne chose. On va revenir là-dessus, mais ma question reste la même. La croissance du produit intérieur brut, le PIB de l'Afrique, pourrait passer de 3,2% à 1,8% en 2020. C'est ce que dit le CNUSED. Alors, l'agence onusienne justifie cette forte baisse par l'impact de la pandémie sur le commerce mondial et ses répercussions sur les économies africaines. Célestin Tawamba, vous qui êtes le patron du patronat en Afrique centrale, dans l'immédiat, est-ce que vous voyez l'impact de ce Covid sur l'économie locale et que redoutez-vous dans les prochaines semaines et les prochains mois?
Mais, Monsieur Foucault, naturellement que nous vivons tous l'impact de ce Covid sur nos économies déjà mondiales et encore plus africaines. Déjà, ce que je voudrais d'abord retenir et attirer l'attention, c'est le fait que le Covid vient montrer la fragilité et remet en cause toutes nos certitudes et nos modèles économiques. Voilà un petit virus qui vient mettre à arrêt tout le monde entier, toutes les grandes puissances, tout le grand modèle économique. Donc ça remet en cause toutes nos faiblesses, toutes nos fragilités, ça dévoile toute la faiblesse et nos fragilités. Et la dépendance totale de nos économies, qui était déjà, je dirais, sous perfusion, et qui fonctionnait avec tous les repères des organisations internationales. Aujourd'hui, je pense que avec cette crise de Covid-là, tout doit être remis en cause. Toutes nos certitudes, tous nos accords, le marché mondial qui a été aujourd'hui conduit par les règles de l'OMC,
aujourd'hui, l'Organisation mondiale du commerce,
devrait, à mon sens, humblement, être remis en cause de manière totale. Toutes les politiques en matière de développement, d'endettement, de financement des économies doivent être remises en cause. Donc je pense que, comme on dit dans le langage courant, on va mettre la balle au centre. Il faut réfléchir sur nos modèles économiques, sortir de l'incantation qui est faite depuis toujours. Et puis je vois déjà tout de suite, on commence à repartir avec les mêmes analyses. Voilà, c'est telle organisation internationale qui commence à vous donner des taux de croissance, et commence à vous donner le niveau de PIB. Excusez-moi, il est temps que l'Afrique, sur la base de ses indicateurs, sur la base de son modèle économique endogène, sur la base de ses potentialités, puisse développer son modèle économique. Allez. Nous devons saisir de cette opportunité de la fermeture de frontières. Pourquoi pas ? Et effectivement, de faire valoir justement la zone de libre-échange africaine. On doit profiter de ça.
On va parler des opportunités, parce que beaucoup parlent d'opportunités. On va en parler dans un instant. Mais j'ai envie de poser la question à Paolo Gomez, qui vous écoute, qui lui est un ancien de la Banque mondiale et qui sillonne l'Afrique de part en part. Lorsque l'on dit qu'il faut remettre tous les modèles économiques à plat, il faut repenser à de nouveaux paradigmes. Que dites-vous à cela ? Cette situation a tout bousculé, remet tout en cause ?
Oui, je pense qu'elle remet beaucoup tout en cause, et il faut certainement remettre un peu les compteurs à zéro, parce que cette crise, comme tu disais tout à l'heure Alain, c'est pour nous en Afrique, c'est comme dans un vol, le moment le plus crucial, c'est le décollage. Et si à ce moment du décollage, il y a une panne de réacteur, la catastrophe peut être extrêmement violente. Donc cette crise peut cacher aussi d'autres cascades de crises sur le point de vue social et économique, pour lesquelles malheureusement le système international n'est pas prêt à nous aider à faire face. Donc je suis d'accord avec notre frère du Cameroun qui dit que c'est une opportunité de certainement revoir les choses. Je voudrais te rappeler que quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, la décision a été de créer un système, une architecture financière mondiale, que Keynes, à l'époque, avait voulu très progressif, dans lequel il fallait faire une relance mondiale. Et les États-Unis, pas mal d'acteurs aux États-Unis, ont refusé ce système. Ce qui veut dire que quand nous allons vouloir remettre le pendule à zéro dans les prochains temps, nous, en tant qu'Africains, il y aura des oppositions, parce que les gens partiront du principe que le système international, comme il est fait, nous permet, nous, de naviguer à l'intérieur et de trouver nos solutions.
Mais pensez-vous qu'il peut y avoir un modèle à côté de celui-là aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer, qu'on peut construire un modèle à côté de celui qui a marché depuis la Seconde Guerre mondiale ?
Je pense qu'on peut commencer à notre niveau à mettre en place certaines institutions. Il ne s'agit pas de jouer au Don Quichotte et d'aller en guerre contre le système international, mais voilà une crise dans laquelle chacun s'est permis, les plus puissants, que ce soit les États-Unis ou l'Europe, rapidement de créer des stimulus en imprimant de l'argent, littéralement.
On a sorti la planche à billets, là.
La planche à billets, et ils ont fait leur stimulus. Et ça, c'est le stimulus uniquement pour endiguer la crise immédiate, pour remettre de la liquidité. Nous n'avons pas ces moyens-là. Donc, il s'agit pour nous de comment on se prépare pour la prochaine pandémie, parce qu'il y aura une autre pandémie, et comment on met en place un système qui nous permet de pouvoir avoir une possibilité d'avoir un stimulus et ne pas être systématiquement dépendant d'un système, d'une architecture financière mondiale.
Avec des modèles qui sont d'ailleurs.
Qui sont d'ailleurs et qui doivent changer. Beaucoup l'acceptent, même aux États-Unis. Il y a beaucoup d'acteurs qui reconnaissent qu'il faut le changer. Mais le leadership que vous avez aux États-Unis actuellement ne voudra certainement pas le déclencher.
Alors, soyons très concrets. Docteur Chekanté, lorsqu'on dit qu'il faut de nouveaux paradigmes, il faut s'organiser différemment, ça se matérialise comment, très concrètement?
Oui, Alain, la construction du nouveau modèle, comme réponse aux limites des 10 paradigmes du consensus de Washington, a commencé depuis longtemps. L'Afrique, je vous expliquais tout à l'heure que l'Afrique était dans un processus de décollage. Rappelez-vous du consensus de Dakar.
Qui s'est déroulé en décembre dernier, oui.
En décembre dernier.
Il faut peut-être nous dire c'est quoi le contenu du consensus de Dakar, parce qu'on en parle.
le consensus de Dakar vient compléter le consensus de Washington, qui aujourd'hui nous a mené à ce désastre.
C'est-à-dire...
Le consensus de Dakar est composé de 7 paradigmes. Le premier paradigme, la nécessité de mobiliser nos ressources internes, l'épargne publique et l'épargne privée. Parce que déjà, l'épargne privée africaine représente plus de 450 milliards en dehors de l'Afrique non utilisés. Deuxième paradigme, la bonne gouvernance et les investissements directs étrangers. Troisième paradigme, prendre en compte les chocs du changement climatique, les chocs du terrorisme qui bouffe jusqu'à présent plus de 20% des PIB de certains pays. On n'avait pas prévu le choc Covid, mais ça entre aujourd'hui dans ce carcan normatif. Quatrième paradigme, c'est la comptabilisation de certains actifs dans l'analyse de la viabilité de la dette.
Alors, c'est un peu technique pour la plupart de ceux qui nous écoutent, mais concrètement, en français facile, ça veut dire qu'il faut mobiliser l'argent interne désormais et puis produire chez nous. C'est un gros
l'argent
ça.
Interne.
Voilà.
Il faut mobiliser, on a dit qu'il fallait mobiliser l'argent interne à deux niveaux. D'abord, au niveau de la fiscalité, une bonne fiscalité. Je ne parle pas de cannibalisme qui donne des redressements à tort et à travers. Non, il suffit tout simplement d'élargir la base de l'assiette fiscale pour avoir un taux de pression d'ailleurs à 20%, qui fait ce taux qui fait partie des pactes de convergence adoptés par nos pays. L'épargne publique à mobiliser, l'épargne privée, je te parle de l'épargne...
Bref, il faut compter sur soi, en gros, il faut compter sur les ressources à la fois humaines et financières locales. Alors, monsieur le ministre Sélé Yalagouli, que dites-vous à cela? Comment vous complétez ça, vous qui avez assisté à la décision des chefs d'État de se mettre ensemble pour relancer la machine?
Moi, je suis très content qu'on ait abordé ces problèmes de modèle économique de développement pour l'Afrique, parce que, en réalité, en tant qu'économiste, j'ai jamais cru qu'il existait un modèle économique applicable à tous les pays ou à tous les continents de la même manière. Chaque pays a ses spécificités, ses contingences historiques, institutionnelles, culturelles, donc il faut que l'Afrique ait son propre modèle. Mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'au niveau national, il faut que les politiques soient très bien définies. Donc je crois que Cheikh Kanté vient d'en élaborer un certain nombre de schémas. Mais non seulement que les politiques doivent être élaborées, elles doivent être suivies de manière intergénérationnelle. Parce que le problème aussi dans nos pays africains, c'est les ruptures. Un peu ce qu'on pourrait appeler des politiques de stop and go. Donc quand un régime arrive, il oublie ce que l'autre régime précédent avait commencé, il met en place de nouvelles politiques, ignorant tout ce qui a été fait. Donc au niveau national, il faut une continuité dans la suite des politiques. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est des leçons historiques qu'on peut en tirer de l'expérience de développement des autres continents. Deuxième élément, il faut également mutualiser les efforts. Je vous ai parlé de la rencontre des chefs d'État, même si c'est par vidéoconférence. Donc il y a une certaine volonté de pouvoir mutualiser les efforts, mais il ne faudrait pas que les regroupements économiques sous-régionaux ou régionaux se substituent en une forme de plateforme supranationale qui devrait être en mesure de tracer la machine au niveau de chaque pays. Non, chaque pays doit avoir ses politiques.
Mais il doit y avoir un objectif qui soit un objectif collectif.
Oui, tout à fait, Alain. Mais l'avantage aujourd'hui, c'est que vous verrez qu'au niveau de chaque regroupement sous-régional, il y a ce qu'on appelle les convergences des critères économiques. Que ce soit au niveau macroéconomique, que ce soit au niveau de l'économie réelle. Donc je crois que ça, c'est une véritable volonté de pouvoir mutualiser nos efforts et aller ensemble.
Alors il va falloir aller ensemble et il va falloir aussi parler aux TPE, les très petites entreprises, et aux PME qui attendent, qui nous écoutent et qui se disent très concrètement qu'est-ce qui va être fait maintenant, comment on fait pour repartir après une si longue fermeture, après une telle crise. On en parle dans une dizaine de minutes, dans la seconde partie du débat africain, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite pour la seconde partie du débat africain. À très vite.
Le débat africain. Alain Foucault.
Comment relancer l'économie après près de 2 mois d'arrêt complet? Maintenant que la courbe des victimes du Covid-19 semble à la baisse, voilà la question. L'équation à laquelle sont désormais confrontés tous les dirigeants des grandes nations. Même préoccupation pour ceux d'Afrique qui, bien que frappés moins tragiquement que le prédisaient les spécialistes de tout poil, ont malgré tout mis aussi en veille les leurs. Le Covid-19, quoi qu'on puisse en penser, va changer le monde de façon permanente et profonde. Comment l'Afrique s'organise-t-elle dans cet environnement, dans ce nouveau paysage international où l'adaptation et l'innovation sont plus importantes que jamais, où de nombreux partenaires ont des priorités différentes, où les fournisseurs ont disparu, où les chaînes d'approvisionnement ont changé. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à la stratégie de relance des économies africaines au sortir du Covid-19. Plusieurs invités au téléphone dans quelques capitales subsahariennes. D'abord le docteur Cheikh Kanté, le ministre chargé du suivi du plan Sénégal émergent. Il est en direct de Dakar, la capitale sénégalaise. Second invité, José Sélé Yalaguli, ministre des Finances de la République démocratique du Congo. Il est en direct, lui, de Kinshasa. Notre troisième invité, en direct de Douala, la capitale économique camerounaise, est Célestin Tawamba, le président du JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun. Monsieur Tawamba est également le président en exercice de l'UNIPAS, l'Union des patronats d'Afrique centrale. Il faut préciser qu'il est d'abord le patron du groupe Cadis Invest qui opère dans les secteurs de l'agroalimentaire mais également de la pharmacie avec Saint-Pharm. Notre quatrième invité de ce plateau est Paulo Gomez, cofondateur de New African Partners, une plateforme d'investissement. Cet ancien directeur exécutif de la Banque mondiale pour l'Afrique subsaharienne est également le coprésident de Afro Champions, un ensemble de partenariats publics-privés innovants et de programmes conçus pour soutenir l'émergence des champions multinationaux. Et pour être complet et actuel, Paulo Gomez, multitâche, est le président du Fonds de l'Union africaine et CDC de réponse au Covid-19. Alors, dans la première partie de ce débat, nous avons évoqué, je voudrais revenir dessus, les nouveaux paradigmes, les nouvelles choses qu'il faut faire pour relancer l'économie. On a parlé de paradigmes, repenser l'économie africaine. J'ai envie qu'on soit très très concret. Aujourd'hui, Célestin Tawamba, vous qui êtes le patron du patronat, qu'attendez-vous concrètement? Qu'est-ce qui doit être fait dans l'immédiat pour que l'on voit changer les choses?
Mais il est question pour nous de passer des discours aux actes concrets. Voyez-vous, le secteur, je vais essayer de ramener des choses au niveau microéconomique. Mmh. On a noté le faible niveau, par exemple, de crédit au secteur privé, qui représente moins de 30% du PIB en Afrique contre plus de 90% en Europe. On a une contribution très faible de l'Afrique dans la valeur ajoutée des produits manufacturiers, qui est à peine 1,5%, très insignifiant. Ça veut donc dire quoi? Qu'il faut développer, le nouveau modèle économique doit être tourné autour de la transformation locale. On l'a toujours dit, mais je dis, aujourd'hui, il faut passer à la réalité. Par ailleurs, pour le faire, comme je l'ai dit au début, nous devons véritablement remettre en cause un certain nombre d'outils qui ont guidé le monde aujourd'hui. Les règles à libre concurrence. L'OMC aujourd'hui a explosé en vol. Il faudrait aujourd'hui que nous puissions trouver les moyens de protéger l'industrie africaine. Ce tissu industriel qui est fragile. On devrait donc pouvoir protéger l'industrie locale. On devrait financer les PME parce que, à travers.
Quand vous dites on devrait, c'est les États, c'est qui concrètement?
Mais justement, c'est ces politiques. Il faudrait que les politiques d'endettement soient. On change le paradigme de la politique d'endettement. Il faudrait plus que, si on ait des politiques d'endettement qui construisent et qui nous laissent des éléphants blancs, ou bien des investissements qui ne sont pas productifs, on devrait trouver les voies et moyens pour libérer justement du financement, pour appuyer.
Le secteur les privé,
PME, les PME, avoir des financements longs et faire valoir également, tirer tout l'avantage que nous avons de l'entrepreneuriat féminin, de la jeunesse et de la diaspora africaine qui se retrouve ailleurs. Mmh. Il est temps qu'aujourd'hui, cette diaspora-là soit au service du développement de l'Afrique.
Parce qui est pourtant le premier financier du continent.
Et encore profiter et bénéficier de l'extérieur.
Alors, Paulo Gomez, quand vous entendez ça, vous, ancien de la Banque mondiale, qu'avez-vous envie de dire? Quelqu'un qui vous dit qu'il faut financer les PME, il faut qu'on protège aussi cette économie, qu'on en finisse un peu avec cette doctrine du libre-échange.
Oui, je suis d'accord. Il faut développer les petites et moyennes entreprises et les toutes petites entreprises, parce qu'il y a beaucoup de femmes et de jeunes qui sont dans ces toutes petites entreprises. Il faut remettre en question toute cette narrative que l'Afrique est super endettée. C'est vrai, cette année, nous devons rembourser quelque chose de l'ordre de 44 milliards de dollars, mais nous ne sommes pas super endettés. Je crois qu'en grande partie, cette dette que nous avons dû contracter et que nous devons continuer à contracter pour notre développement, pour les infrastructures, elle est chère. Elle est chère parce que les agences de notation, malheureusement, s'amusent, même dans le temps de crise, à qualifier l'Afrique comme un environnement d'extrême risque. Je vais donner l'exemple de ce qu'une agence de notation a fait par rapport à la note de l'Afrique du Sud, qu'elle a fait un downgrade de la note d'Afrique du Sud en cette période de crise. C'est-à-dire, ce qui se passe actuellement, c'est pas l'Afrique du Sud, elle n'est pas fautive, c'est un virus, comme on a dit tout à l'heure.
Absolument.
Donc, il y a des choses à faire au point de vue international, notamment les agences de notation. Il faut aussi que nos pays puissent permettre d'avoir des politiques parfois qui sont pas orthodoxes, mais qui permettent d'injecter des ressources vers le secteur privé. Je crois qu'il faut augmenter les crédits pour le secteur privé. Et cette relance va demander que nous nous endettions encore plus pour cela. Et créer, je pense, des systèmes qui soient beaucoup plus soutenables. Par exemple, on retourne à la question de la santé. Je crois que tout le monde accepte qu'il faut créer maintenant un système de défense de la santé, de revenir à l'essentiel, mais aussi par rapport à ce qu'on mange. Nous importons pour à peu près 35 milliards de dollars par an, nous les Africains. Donc il y a un réservoir d'affaires, d'opportunités au niveau de chaque pays. Et ça se fera seulement dans le contexte de l'accord continental où nous allons échanger entre nous. Donc il faut qu'on envoie un message clair au reste du monde que nous ne sommes pas en train d'avoir un langage révolutionnaire. Nous sommes tout simplement en train d'avoir une nouvelle narrative qui permet de se concentrer sur nos forces, sur les produits que nous devons transformer, parce qu'à la fin de la journée, quand il y a une crise comme celle-là, vous vous apercevez que vous êtes tout seul.
Vous êtes tout seul, puisque la plupart des États aujourd'hui se retournent d'abord vers l'intérieur pour résoudre les problèmes, avant de regarder ce qui se passe à l'international. Alors, lorsque vous entendez les propositions que fait Paulo Gomes, docteur Cheikh Kanté, comment réagissez-vous à cela? On a vu un certain nombre d'États aller encore contracter des crédits tout seuls, aller vers les institutions financières internationales tout seuls. Est-ce que ce n'est pas le moment de se réunir pour avoir une stratégie collective?
Oui, je voudrais d'abord préciser, Alain, que les préoccupations de M. Célestin et de M. Paulo sont prises en compte par le consensus de Dakar. Le cinquième paradigme du consensus de Dakar, c'est la transformation de nos matières premières en Afrique et l'industrialisation. Le sixième paradigme de Dakar, c'est la perception du risque. La perception du risque qui renchérit les coûts de transactions en Afrique. Alors maintenant, il est démontré qu'il y a beaucoup plus de risques autre part qu'en Afrique. Cela dit, les Africains ont une forte conscience qu'ils doivent compter sur eux-mêmes en matière de financement. Déjà, je pense que pour cette crise-là, la solution est les débats monétaires, budgétaires et fiscaux. Je salue déjà les mesures prises par notre Banque centrale, mais je pense qu'elle doit aller au-delà. Rien n'empêche aujourd'hui à notre Banque centrale d'acheter la totalité de la dette des 8 pays de l'EMOA. Ses statuts le lui permettent dans le cadre des quantitative easing. Injecter de l'argent pour minimiser le déficit public, rien n'empêche aujourd'hui notre...
Ce qui est fait par ailleurs, ce qui est fait dans d'autres, sous d'autres cieux.
Mais ce qui est fait dans le référentiel anglo-saxon, ce qui est fait en Europe. Aujourd'hui, le statut de la Banque centrale, dans son article 18, autorise l'intervention de cette banque dans le marché financier de l'EMOA avec des opérations d'open market.
Pour ce qui est de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, je suppose que c'est la même chose en Afrique centrale.
Mais bien sûr, non, il faudrait combattre la dissonance monétaire qui existe en Afrique et finalement essayer de trouver une solution définitive. Œuvrer pour une recomposition des priorités. C'est ce que nous avons fait au Sénégal dans le cadre du plan Sénégal émergent. C'est pourquoi aujourd'hui le Sénégal est en métamorphose comme d'autres pays de la sous-région. Cette conscience collective-là, elle est là.
Mais on a entendu qu'il faut une conscience collective. On espère qu'elle va vraiment se manifester parce que on a encore vu quelques-uns quand même aller sur le marché tout seul. Et on a écouté autre chose. L'autre point qui revient, qui divise la plupart des Africains, c'est d'un coup on entend les grandes nations, puisqu'elles ne peuvent pas injecter de l'argent, qui disent annulation de la dette. Certains disent que c'est une solution, d'autres disent non. Alors, est-ce que l'annulation de la dette est une solution aujourd'hui, au moment où le continent a besoin de liquide? Monsieur Seleya Lagouli.
Je voudrais d'abord commencer par dire ceci, parce que nous avons dans la première partie dit qu'il faut un nouveau paradigme de développement. Qui dit nouveau paradigme dit de nouvelles approches. Est-ce que l'annulation de développement, en fait, de l'endettement, parce que nous avons connu l'initiative PPP qui, autour de l'année 2010, a connu l'effacement de la dette multilatérale, voire bilatérale.
Folie PPTE, c'est pays pauvre très endetté.
Pays pauvre très endetté, justement. Mais qu'est-ce que ça donnait si on fait aujourd'hui une évaluation ex poste des avantages, éventuels avantages issus de ces mécanismes Est-ce que ça a permis à l'Afrique d'avancer? Non. Moi, je pense qu'il faut être très pragmatique. Nouveau paradigme, nouvelles approches. Soyons pragmatiques. Si nous disons qu'il faut diversifier les économies africaines, il faut industrialiser. On est en train de parler de PME, mais il faut cibler qu'est-ce que les PME peuvent produire et leur apporter le crédit nécessaire dans ces domaines-là. Je ne voudrais pas ouvrir un chapitre sur une politique monétaire africaine commune, parce qu'on n'en est pas là.
Non.
Mais je veux dire qu'en ce qui concerne la République démocratique du Congo, la Banque centrale, en tout cas, a ouvert une ligne de crédit pour apporter un soutien aux PME de manière à garantir la résilience, cette fois-ci, dans le domaine microéconomique, comme M. Tawamba l'a dit. Parce que nous avions parlé dans un premier temps de la résilience au niveau macroéconomique. Donc, il faut dire qu'est-ce que nous pouvons produire pour nourrir l'Afrique? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour électrifier l'Afrique, un peu comme le leitmotiv de mon frère et ami Adesina, président de la Banque africaine de développement. Et alors, de manière concrète et de manière pragmatique, apporter des solutions au cas par cas, plutôt que des discours dithyrambiques et laudatifs que l'Afrique dispose de X millions de terres arables. Oui, mais commencer d'abord à nous nourrir. Mm-hmm. Donc, il faut aller de manière tout à fait pragmatique. Voilà.
Donc, ça, c'est des solutions très, très concrètes. C'est les Saint-Awamba. Quelle réaction à cela? On parlait d'ailleurs de l'annulation de la dette au départ.
Ben justement, je crains que les mêmes causes vont produire les mêmes effets, qu'on n'aura pas tiré la leçon de ce tsunami que le Covid. À peine qu'il y a la crise du Covid, on vous annonce annulation de la dette. Mais on n'a rien demandé. C'est la première fois où vous voyez un médecin qui vous administre un traitement sans vous diagnostiquer. Donc il faut justement changer de paradigme et laisser véritablement les Africains à un moment donné, justement, à cette période, leur dire exactement qu'est-ce qu'ils ont besoin, quelle est la dette, le type de dette dont ils ont besoin, quel est le type de financement, pourquoi est-ce que ça va être, à quoi c'est destiné. Là, aujourd'hui, on entend parler, c'est pas de l'annulation, on parle de report. Et vraiment, excusez-moi, en termes financiers, vous me reportez une dette d'une année à une autre. Il faut bien que j'analyse ma capacité d'endettement de l'année où vous avez reporté cette dette pour être sûr que je vais pouvoir payer. Donc, on ne peut pas continuer à fonctionner avec le mode de fonctionnement actuel de l'Organisation de l'économie mondiale, qui est structurée pour faire fonctionner justement les pays développés. L'Afrique doit penser Afrique. Consommer ce qu'elle produit et produire ce qu'elle consomme. Elle doit donc chercher les moyens de se financer, même au niveau africain. Là, tout de suite, j'entendais déjà des relents, régionaux. Ah, lui, moi, là, on doit sortir de cette réflexion sous-régionale, justement, qu'on a conçue pour nous fragmenter, nous diviser. Il faut enfin que l'on parle d'hommes d'une même voix, on parle africain. Ce que je pourrais émettre comme vœu aujourd'hui, après ce qu'on vit là, c'est tout de suite avoir l'ouverture de toutes les frontières africaines entre elles. Parce que c'est un non-sens de penser qu'on ferme les frontières pour un virus. Nous vivons en permanence en pandémie en Afrique. On a à chaque fois le frère jumeau du coronavirus que d'autres. Peut-être c'est pas la même chose, mais on ne peut pas comprendre que nous sommes en train toujours d'appliquer ce qui vient d'ailleurs. Il est temps, véritablement, qu'après ce coronavirus, que l'on change de paradigme dans la conception morale. Il faut, on cherche pas, il s'agit pas d'une révolution, mais il s'agit d'une transformation. Transformation, non seulement dans les politiques économiques, les politiques de gouvernance, mais également l'entreprise qui doit prendre sa responsabilité et être à la dimension de l'Afrique.
Pour vous, c'est tout de suite l'Afrique. Il faut quand même qu'il y ait des organismes sous-régionaux pour pouvoir permettre de fonctionner dans des cadres aussi vastes.
Oui, il faut naturellement, c'est bien de ça qu'il s'agit, il faut penser africain. Il faut des organisations sous, même si elles sont sous-régionales, il faut une dimension africaine. Parce que nous avons beaucoup de sous-régions à l'intérieur de l'Afrique, justement, qui crée cette diversité. Tenez, aujourd'hui, dans la sous-région d'Afrique centrale, avec le Covid, imaginez-vous, nous ne pouvons pas exporter dans un pays voisin, je vais taire le pays pour des raisons de
La Guinée équatoriale, le Gabon.
Je préfère laisser. Vous avez un transporteur qui arrive à la frontière, il est obligé de changer de chauffeur pour que l'autre chauffeur prenne le camion.
En Centrafrique, non, mais, qui est voisin du Cameroun.
Comment pensez-vous, mais on est, je ne sais pas comment, dans quel monde on vit, donc il faut donc changer complètement de paradigme, et cela vient d'abord par notre capacité de réflexion. Il y a un changement de paradigme moral, nécessaire, indispensable. On va toujours passer le temps à faire des discours.
Mais il faut passer aux actes. Il faut passer aux actes. Paolo Gomez, comment on passe aux actes? Puisque je pense que tout le monde est d'accord sur le principe qu'il va falloir une intégration continentale un peu plus forte.
Trois choses, Alain. La première, je peux dire que, contrairement au passé, nous savons maintenant ce que nous devons faire. Parce que nous avons déjà cartographié ce que nous devons faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a un besoin de changer nos mentalités. Parce que le problème est aussi dans nous-mêmes, à l'intérieur de l'Africain, du mental de l'Africain. Alors, je ne sais pas si ça fera l'objet d'un changement ou ça doit faire l'objet d'un changement culturel, mais il y a un problème à ce niveau-là. Pour que nous puissions assumer, effectivement, cette cartographie de choses à faire pour lesquelles nous sommes déjà tous d'accord. Donc, il y a un changement culturel, il y a une question de l'organisation avant que nous puissions aussi critiquer les autres, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est vrai, à critiquer aux autres par rapport, par exemple, ce que je disais tout à l'heure,
mais
l'architecture financière internationale n'est pas dessinée pour nos intérêts. Et la troisième chose qu'il faut, je pense, important, c'est de permettre à la génération nouvelle qui arrive de pouvoir l'équiper pour qu'elle puisse faire face aux défis qui vont venir. Encore une fois, vous avez vu pour ce virus, les frontières ont été fermées, les stimulus ont été faits dans le Nord, les gens ont remis le compteur à zéro chez eux et ils ont oublié l'Afrique. Grâce à Dieu, pour l'instant, cette crise semble ne pas nous toucher comme la façon dont les gens étaient en train de...
On croise les doigts parce que c'est pas encore terminé.
Exactement, mais imagine que nous ayons ces statistiques que les gens étaient en train de dire. Donc, je pense qu'il est important de nous préparer pour les prochaines crises, et ça se fera par nos institutions. Nous avons déjà au niveau de l'Union africaine le CDC, qui est le Center for Disease Control, c'est-à-dire qui va faire la surveillance et qui devrait réfléchir aussi sur même les vaccins, la recherche que nous devrions faire, parce qu'il y aura des maladies qui seront plus spécifiques à nous, les Africains, certainement. Et pour cela, il faudra trouver un moyen aussi de les financer. Le corona est venu sous le point de vue planétaire, c'est pour ça qu'il y a la course avec les institutions pharmaceutiques, les médecins, etc., pour pouvoir trouver une solution. Mais si c'était une maladie qui était très localisée sur l'Afrique, je ne pense pas qu'on aurait été de façon accélérée pour trouver
la médication. Le paludisme est encore là pour nous le rappeler. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Le temps tourne vite et il y a beaucoup de sujets. J'espère qu'on va revenir sur un certain nombre d'éléments que nous avons évoqués ici. Mais je voudrais retenir surtout essentiellement de cet échange le fait qu'il va falloir être un peu plus inventif, moins complexé et faire confiance aux chercheurs, diplômés, scientifiques, bref, aux cadres africains. En finir un peu avec les pratiques très savantes qui consistent à citer à chaque conversation les grands penseurs et économistes occidentaux des siècles précédent, qui n'avait aucune connaissance des réalités, des modèles et de l'environnement de l'Afrique d'aujourd'hui. Vous tous qui étiez les invités du débat africain avez un parcours à la fois dans les grandes écoles d'Europe et des États-Unis, dans les grosses structures internationales et en plus par rapport aux autres, vous connaissez plutôt bien l'environnement, les réalités socio-économiques de vos pays. La responsabilité vous incombe donc de savoir inventer l'avenir sans complexe et avec audace. Peut-être faudrait-il aussi rappeler au plus grand nombre de responsables civils africains que la menace Covid-19 n'est pas vraiment terminée, pas du tout. À ceux qui ont choisi de laisser fermer l'école en ouvrant les bars et les boîtes de nuit, il faudrait peut-être s'en souvenir pour ne pas regretter cette décision plus tard. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
Appel sur l'actualité.